Sourien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Nanette Escartefigue.
Anne Nanette Catherine Escartefigue est une héroïne malgré elle de romans pseudo-historiques. Elle est née dans le sud de la France, à une centaine de kilomètres de Nice, à la fin du XVIIIe siècle après J.C.
Parfois aussi écrit Scarchefigue, le terme Escartefigue désigne la fauvette Becfigue, grande consommatrice de figues, qu'elle éventre pour en manger l'intérieur. Le verbe occitano-provençal « escarchar » signifie « déchirer »,« mettre en lambeaux ».
Fille du rien. Anne-Catherine Escartefigue naît le 18 janvier 1774 à Saint-Martin-de-Palière dans le Var, un village d'environ 400 habitants. Surnommée Nanette, elle est la dernière née du couple Joseph dit Martegot Escartefigue et Thérèse Justine Prévereau, qui ont déjà procréé 5 autres enfants depuis leur mariage en 1762, 4 mâles et une femelle. Selon l'état civil, née entre 1763 et 1772. Des deux précédents mariages de son père, Nanette possède 4 demi-sœurs qui sont toutes déjà mariées. Martegot exerce le métier de charbonnier et Thérèse celui de blanchisseuse. Après la mort de Joseph en octobre 1774, Thérèse Prévereau se remarie avec François, dit Francio, Gacon, charbonnier de métier. La famille recomposée habite dans une maison à Saint-Martin-de-Palière appartenant à Joseph Icard, qui y vit aussi et y tient une auberge. Il possède aussi quelques terres agricoles. En 1788, Suzanne, la sœur de Nanette, se marie avec Claude Gacon et quitte le village pour s'installer à Cuers. Mais après la mort de Claude, elle part s'installer en septembre 1800 à Aix. Elle trouve un travail de domestique chez un charcutier de la ville et n'a que très peu d'occasion de retourner voir sa famille dans le Var. Lorsque le dernier de la fratrie à se marier en 1794 quitte la maison familiale, Nanette reste avec sa mère et son parâtre. Elle exerce aussi l'activité de blanchisseuse pour survivre. Elle est, selon certains, illettrée. Sans savoir si ça relève de la rumeur publique et du dénigrement ou d'une réalité, Elle jouit dans le pays de la réputation d'une fille débauchée, selon deux de ses voisines, dont l'une sous-entend que Nanette est une prostituée. Mi-novembre 1802, profitant de l'absence du parâtre, deux inconnus s'introduisent dans la maison, menacent Thérèse et violent par deux fois Nanette. Si ce viol, par hasard de la vie, avait eu pour conséquence une fécondation non désirée, hormis l'abandon, il ne serait resté à Nanette que la solution de l'avortement mécanique, ou alors encore celui de l'infanticide au terme de la grossesse, s'exposant ainsi au risque de complications mortelles ou aux foudres de la justice. Bref, de ce que nous savons de la vie de Nanette à cette époque, le mot qui s'en approche le plus est « rien ».
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas.
Enrobage historique. Les régions de la Provence intérieure vivent au rythme des secousses des lendemains révolutionnaires. Les plus pauvres cherchent ce qu'ils sont censés avoir gagné, et les plus aisés tentent de conserver ce qu'ils sont censés avoir perdu. Les oppositions entre monarchistes et républicains sont une succession d'affrontements armés, de révoltes populaires villageoises, de pillages, d'assassinats ciblés et de demandes répétées de plus de répartition des richesses. Le redécoupage administratif de la Provence après la Révolution française de 1789 et l'annexion de nouveaux territoires instaure à la place quatre départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Basses-Alpes, les futures Alpes de Haute-Provence.
La loi du 23 août 1793 sur les réquisitions est votée afin de faire face aux besoins de nouveaux soldats pour se battre contre les Anglais et les Espagnols, soutien de la monarchie déchue. Tous les hominines mâles sont ainsi invités à venir gaiement donner leur vie pour la patrie en danger. Beaucoup refusent. Ceux qui le peuvent parviennent à fuir à l'étranger. D'autres se cachent dans les grandes villes et d'autres encore préfèrent se réfugier dans les arrière-pays de la côte méditerranéenne varoise. La loi du 4 Nivose en 4 punit de la peine de mort quiconque incite à la désertion, à rejoindre l'ennemi ou des bandes de brigands et rebelles. Celle du 24 Brumaire en 6 punit d'une amende et de 1 an ou 2 ans de prison toute personne accusée d'avoir caché un réquisitionnaire ou aidé à son évasion. Les incitations à rejoindre les rangs de l'armée française sont multiples, faisant appel au récent sentiment patriotique, à la crainte d'une répression féroce ou à un argumentaire qui ferait perdre la tête à Olympe de Gouges.
Et vous, fille vertueuse, dont la main et le cœur sont promis à ces jeunes défenseurs. Ranimez leur courage. Faites-les voler au combat. Tressez-leur des couronnes. À leur retour, couverts de lauriers, ils seront plus dignes de vous. Mesurez le degré de votre estime et de votre amour pour eux sur le nombre de leurs hauts faits et de leurs victoires. Que l'hymen vous unisse alors. Adresse des administrateurs aux jeunes gens des Basses-Alpes, 22 septembre 1793.
Les guerres napoléoniennes accentuent la pression contre les jeunes hominines mâles, toujours plus nombreux à mourir pour les rêves de grandeur du nouvel empereur, toujours plus nombreux à refuser de rejoindre les armées. Contraints à une certaine forme de clandestinité, de jeunes varois déserteurs ou réquisitionnaires de l'arrière-pays s'organisent en bande pour résister aux militaires qui les traquent. Régulièrement rejoints par des citadins, déserteurs eux aussi ou malfrats, à la recherche d'une vie plus paisible. Se forment ainsi des bandes de brigands qui multiplient les attaques contre des convois postaux, des marchands et des marchandises en transit, les volent dans des maisons isolées et s'affrontent régulièrement avec des militaires qu'ils n'hésitent pas à abattre.
Nous sommes ici trois réquisitionnaires. On parle encore de nous faire marcher par force. Qu'en pensez-vous? Que voulez-vous faire? Quant à moi, je ne marcherai pas. Je préfère m'enrôler dans les bandes de brigands. J'aime mieux mourir ici le ventre plein de poulets qu'à l'armée le ventre plein de munitions. Propos attribués à Louis Labrologue Brémard lors de son interrogatoire.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été,
de par sa configuration géographique, l'arrière-pays fournit un endroit idéal pour qu'y apparaissent des phénomènes de brigandage.
Ce brigandage, qui fut l'élément central de l'histoire régionale à la fin du Directoire et dans les deux premières années du Consulat, a sévi partout, comme il est naturel, dans les zones escarpées et boisées, naturellement propices aux refuges, et traversé pourtant de routes importantes où circulaient, comme autant de proies, voyageurs riches et commerçants. La région qui l'a intéressé avant toute forme le nord-ouest du département du Var, le nord-est des Bouches-du-Rhône, le sud-est du Vaucluse et le sud-ouest des Basses-Alpes. Un quadrilatère Brignoles ex Pertuis Manosque l'enfermerait assez bien. Géographiquement, c'est un pays complexe, qui va des montagnes de la Sainte-Baume à celles du Luberon, en passant par ses hautes et ses grands plans arides que traverse le Verdon inférieur avant de se jeter dans la Durance. C'est un pays de transition entre Haute et Basse-Provence, pas encore montagneux sans doute, mais déjà trop froid pour l'olivier. L'on y vivait du blé, du mouton et de la forêt. Et surtout, l'on voyait s'effectuer une intense activité d'échange, dont la route d'Italie et la route des Alpes n'étaient que les deux axes principaux. Mais pas du tout les seuls, loin de là. La majeure partie de cette région appartient au Var.
Les tentatives de venir à bout de ce phénomène, par une présence militaire accrue, via des patrouilles et des battues, ne suffisent pas à éradiquer les différentes bandes qui se constituent, et n'hésite pas à s'unir au gré des opportunités et des bons coups. Excédés, les autorités françaises désignent les arbres bordant les chemins nouvel ennemi intérieur dont il faut se débarrasser. Le 19 pluvieuse en 8 février 1800, le commissaire du département des Basses-Alpes ordonne aux administrateurs des cantons situés dans l'arrondissement de Digne de faire couper jusqu'à 60 toises, une centaine de mètres, les bois longeant certaines routes. Et le 15 Thermidor en 8, 3 août 1800, une amnistie est proclamée dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et des Basses-Alpes pour ceux des réquisitionnaires qui rejoignent les rangs et des menaces sont lancées contre les brigands accusés d'être des sectateurs du système antisocial. Pour les autorités, ce brigandage est le fait de 5 bandes, surnommées selon le nom de certains villages locaux, tout en reconnaissant qu'elles se font et se défont au gré des opportunités, qu'elles unissent temporairement des hominines et qu'elles se restructurent en permanence, en réaction aux nombreux morts parmi elles.
À la tête de chaque bande était un chef élu, généralement plus hardi, plus entreprenant, plus intelligent que les autres. Il recevait les correspondances, entretenait les relations avec les bandes voisines et les complices, dirigeait les expéditions, donnant le signal de l'attaque et celui de la retraite, quand il jugeait que l'expédition avait assez duré. Un signe extérieur particulier, tel que chapeau de général, avec panache, grande médaille pendue au cou, etc., le distinguait de ses séides, sur lesquels il exerçait un pouvoir absolu. Il ne prenait, dans le partage du butin, que la part commune qui lui revenait.
Contrairement à quelques petites bandes royalistes actives dans la région, la plupart des brigands ne semblent pas avoir de revendications politiques, hormis le refus d'être militaire, évidemment. D'après Joseph-Marie Morel, parmi les jeunes brigands, il se disait qu'après des attaques de magasins ou de passants, des bandits marseillais, dans un geste de défiance vis-à-vis de la police, placardaient des affiches sur les murs avec le slogan suivant.
« Nous avons volé, nous volons, nous volerons. »
Outre qu'il permet à des réquisitionnaires d'échapper à la capture, le brigandage induit tout un réseau de connivence entre celles et ceux qui y participent et en tirent profit, selon leur implication. Informateurs ou receleurs, hébergeurs ou soutien logistique. L'économie du brigandage met du beurre dans les épinards, mais ne permet pas un enrichissement de celles et ceux qui ne se contentent pas de leur métier, qui bien souvent est insuffisant pour survivre. À de très rares exceptions, le brigandage est une activité de pauvres. Si le discours des autorités politiques les dénigre et les qualifie de contre-révolutionnaires, d'anarchistes, de chauffeurs ou tout autre nom d'oiseau, des papiers retrouvés après l'explosion d'Ops sur le cadavre de Dorel sont signés simplement « Pauvre fuyard ».
Faits et méfaits. Les méthodes de brigandage consistent principalement à dévaliser les porteurs de marchandises et de richesses sur les routes et les chemins de la région, à piller des maisons isolées et parfois à attaquer des villages. Ceux qui résistent sont mis à mort, les autres sont épargnés. Si celles et ceux qui sont assaillis ne révèlent pas où se cachent leurs biens, les brigands n'hésitent pas à leur extorquer par la force, les menaçant et les molestant. Certains font mention de torture par la technique dite de la chauffe, qui consiste à brûler les pieds pour faire parler. Plusieurs viols sont aussi commis par certains brigands contre des voyageuses ou des femmes présentes sur les lieux attaqués. Par ceux qui, imprégnés d'imaginaires culturels nauséabonds et frelatés, pensent ainsi folâtrés à la recherche d'un trésor à ravir. Tristes déserteurs qui ne se comportent pas mieux que des militaires en campagne. Quelques-unes furent tuées pour avoir simplement rappelé aux voleurs trop entreprenants que, d'évidence, il n'y avait aucune cachette.
C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y entrer, j'ai rien laissé de précieux.
Sachant qu'en tant que déserteur ou bandit, pris les armes à la main, il risque l'exécution immédiate s'il rencontre des militaires, les brigands ne laissent que très rarement en vie ceux qui les traquent. Les chroniques judiciaires et les autorités militaires mentionnent plusieurs cas où les militaires ont fait preuve de si peu de zèle que des brigands parviennent à échapper à un traquenard ou même à s'évader. Dans l'attente d'une solde qui n'est pas versée, ils ne désirent pas mourir que pour la patrie en danger. La conscription n'est qu'une forme obligatoire du mercenariat.
Après l'affrontement du 3 frimaire en 10, 24 novembre 1802, à l'auberge de Joseph Icard, les autorités se lancent, à partir de leurs maigres informations, dans une vague d'arrestations pour complicité d'aide aux brigands. Outre l'aubergiste, les autres locataires de la maison sont suspectés dès le 18 Nivose en 11, 8 janvier 1803, d'entretenir des intelligences avec les brigands, et ordre est donné par le préfet de les arrêter. Le 14 Ventose en 11, 5 mars 1803. Un mandat d'arrêt est lancé contre Nanette, sa mère et son parâtre. D'après la note de l'autorité judiciaire, Nanette est la maîtresse déclarée de l'un des brigands. Absent au moment de la venue des militaires le 28 Ventose en 11, 19 mars 1803, François Gascon échappe à l'arrestation. Mais Thérèse, Suzanne, venue rendre visite à sa famille, et Nanette sont arrêtées. Transférées à la maison d'arrêt de Vinon, puis à Brignoles, et enfin à Draguignan. Arrêté peu de temps après, François Gascon meurt en prison le mois suivant. L'arrestation de Jean-Pierre Thurier-Ponce, le 18 Germinal, 8 avril 1803, est un tournant pour les autorités judiciaires. D'abord fuyant, il admet quelques faits. Impliqué entre autres dans la fusillade du 3 frimaire, il est condamné à mort avec quelques autres de ses compagnons. Croyant pouvoir ainsi sauver sa peau, Thurier déclare avoir de nouvelles révélations à faire. bref, qu'il est prêt à balancer. Le 14 Thermidor, le 2 août, il se lance dans un long témoignage qui entraîne de très nombreuses arrestations. Avec force détail, il énumère tous les actes de brigandage auxquels il a participé et ceux dont il a entendu parler, et nomme toutes les personnes qui, selon lui, y ont participé. Feu François Gacon, le parâtre de Nanette Escartefigue, est dénoncé comme étant un receleur et informateur des brigands. Nanette est suspectée par les autorités judiciaires d'être la maîtresse de Tisté Pénas et de profiter des butins. À la question du juge qui lui demande s'il est vrai qu'elle est la maîtresse de plusieurs bandes, Jean-Pierre Ponce se lâche.
Pardonnez-moi, mais elle était tellement que quiconque voulait jouir d'elle en jouissait. Non seulement elle nous recevait à volonté chez elle toutes les fois que nous désirions, mais encore, soit dans l'auberge, soit dans les bois, elle venait nous chercher, nous agacer, nous provoquer.
La payez-vous en argent ou en effet volé ?
Nous la payions en argent, en effet volé. Chacun de nous lui donnait ce qui lui plaisait.
Ne savait-elle pas que ces effets que vous lui donniez provenaient de vol ?
Elle le savait si bien qu'elle n'imaginait pas que nous les eussions fabriqués nous-mêmes. Et son principal amoureux, qui était Tisté Pénaste de Treste, lui en avait tant donné, ainsi que plusieurs d'entre nous, qu'elle devait en avoir vendu et fait beaucoup, beaucoup d'argent.
Suzanne Escartefigue est interrogée le 23 Thermidor en 11 août 1803. Mais, rapidement disculpée par la balance, elle est libérée le 23 Fructidor en 11, 10 septembre 1803. Thérèse Prévereau, la mère, est interrogée le 28 Fructidor en 11, 15 septembre 1803. Elle déclare ne rien savoir à propos d'objets volés et dit ne pas connaître qui sont le ou les amants de sa fille Nanette. Cette dernière est interrogée le 30 Fructidor en 11, 17 septembre 1803. Le juge la questionne pour savoir si elle a connaissance de la présence d'objets volés chez elle et si elle connaît Tisté Pénas, son supposé amant. Elle nie pour les objets, admet connaître Tisté Pénas, qui cultive depuis 3 ans des lopins de terre de la famille Escartefigue-Gacon, mais sans pour autant le présenter comme son amoureux. Reprenant les mots de Thurier, le juge insiste sur son hypothétique pratique de la prostitution, ce qu'elle rejette catégoriquement. Des 3 mises en cause, seule Nanette n'est pas confrontée au délateur Thurier. Comme il se doit en de telles circonstances, Nanette ne sait rien, ne dit rien. Ne jamais dire quoi que ce soit à la justice ou à la police est, ici et toujours, le maître mot. Ainsi que le note allégoriquement le criminologue Marcel Pagnol dans une scène de Marius où les 4 protagonistes jouent aux cartes.
Eh ben quoi, c'est à toi.
Je le sais bien, mais j'hésite.
Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain?
Voyons, capitaine, nous vous attendons.
Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et
nous
connaissons.
Nous avons 30.
Nous allons en 34.
Oui. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd.
C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur.
Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais, si tu coupes à cœur.
Ne te gêne plus, Montolito, je pas dans que tu y es.
J'ai rien dit, j'ai pas donné de renseignements. Oui. Rien dit.
Oui. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de Paris. Oui.
Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié.
Écoute, Panisse, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats.
Évidemment, je me demande toujours si Panisse coupe à cœur.
Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami.
Je dis bonjour à personne, je réfléchis.
Eh bien, réfléchis en silence. Elle a raison, t'as pas besoin de parler.
Au long de ces procédures qui eurent lieu de la fin de l'an 11 au début de l'an 12, 293 personnes, 56 femmes et 237 hommes sont entendus, soit en tant que témoins, soit en tant que mises en cause. Parmi ces dernières, la plupart sont issues des couches sociales les plus pauvres et en grande partie illettrées. Sur 56 femmes, 54, dont Nanette, déclarent ne pas savoir signer, deux le savent. Sur 237 hommes, 132 ne savent pas et 105 savent. Sur ce dernier chiffre, il est à remarquer que 41 font partie des classes bourgeoises, et qu'elles sont entendues en tant que témoins. Disculpées, 26 personnes sont libérées. Thérèse Prévereau et Nanette le sont le 13 Ventose en 12, le 4 mars 1804. Beaucoup des personnes incriminées par la justice dans ces affaires de brigandage sont décédées avant le procès, tuées dans des accrochages avec des militaires ou lors d'actions de brigandage. À l'issue du procès, le tribunal spécial du Var annonce ses sentences, et ainsi, entre 1803 et 1805, les exécutions des quelques survivants se succèdent à Draguignan. Sans attendre l'apparition de la protivophilie plus de deux siècles après, Jean-Pierre Thurier, Ponce, aurait dû savoir que se comporter ainsi face à la justice ne paye que très très rarement. Il meurt en prison dans le courant de l'année 1805. Bien au-delà de cet épiphénomène de brigandage dans l'ancienne Provence, il serait possible de faire une longue nécrologie de celles et ceux qui crurent, naïvement, échapper à la mort en donnant des informations ou des personnes à la police ou la justice. La plupart meurent dans les geôles ou bénéficient d'un régime de faveur lors de leur exécution, fusillés ou guillotinés en dernier, abattus plutôt que torturés, abandonnés ou affamés. Taquine, la justice ôte même ainsi à ses anciens comparses le plaisir de les traiter comme il se doit en de telles circonstances.
Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fais du sale, allo allo allo. Bébé veut du sale, allo allo allo. Million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 la pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 la pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye, j'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding-dong. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé veut du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Bébé veut du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Oh, c'est chaud là-haut. 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 Oh, c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
Et après. De retour à Saint-Martin-de-Palière, Nanette s'y marie le 7 septembre 1807 avec Pierre-Paul Arnoux, trois mois après la mort de sa mère Thérèse. Le nouveau couple s'installe à Vinon, d'où est originaire Pierre, et deux enfants naissent de cette union, Marie-Claire, le 20 mars 1808, et Jean-Joseph, le 26 mars 1810. Pierre décède le 25 mars 1836 à l'hôpital maritime de Toulon. À une date indéterminée, Nanette Escartefic déménage à Aix, où sa sœur Suzanne habite. Cette dernière meurt dans cette même ville le 4 novembre 1840. Nanette décède chez elle le 4 novembre 1847. son beau-frère et un voisin viennent faire enregistrer la mort. L'acte de décès précise qu'elle exerçait le métier de journalière. Sa dernière adresse restera donc le 27 rue du boulevard Saint-Jean, actuelle rue Pavillon. Pour l'instant, la vie de Nanette Escartefigue reste un grand mystère. Les quelques informations disponibles ne permettent pas d'en savoir plus. Des recherches supplémentaires ne permettraient sans doute pas de déterminer quelles furent ses implications réelles dans les actes de brigandage, ni de connaître quelles furent ses mœurs. Les accusations portées contre Nanette peuvent être vraies. Et peut-être a-t-elle effectivement des mœurs dissolues du point de vue de la morale publique, libertine ou prostituée. Peut-être qu'elle a profité du brigandage par recel ou par cadeau. Mais nous ne sommes pas en mesure d'affirmer telle ou telle option. Tout au plus, est-il possible de trouver quelques informations de type domestique après son installation à Aix ? Personne n'a pu pour l'instant fournir de texte écrit par Nanette elle-même, ce que les protivaux historiens aiment à nommer ses mémoires de rien. Malgré les évidentes proximités entre la nécrophilie et la protivophilie, il ne semble pas utile pour cette dernière d'en exhumer plus sur Nanette Escartefigue. Et les vomissements provoqués par la lecture des sources policières et du témoignage d'une balance ne permettent jamais d'écrire une vie sans en livrer sa version policière. Il n'y a aucune raison de croire les paroles d'une personne qui ne pense qu'à sauver sa vie grâce à ses révélations. Pas plus que celles affirmées lors d'un interrogatoire par un témoin ou un accusé. Face à la police et la justice, la règle n'est pas de dire la vérité, mais de raconter ce que l'on veut afin d'y échapper, sans ne jamais impliquer d'autres que soi.
Mais chez nous, on sait sur quel ton répondre au commissaire.
Donne-moi un nom, quoi.
C'était à tes parents de le faire. Chez nous, tout sert, rien ne s'ignore, personne ne collabore. Le sens de l'honneur prime, même si tout le monde a le mort.
De 1799 à 1804, beaucoup de personnes impliquées dans le brigandage sont abattues lors d'affrontements avec les militaires ou tuées pendant des attaques, exécutées ou condamnées au bagne après décision judiciaire. Les autres sont mortes sans plus de précision. Presque 200 personnes, très majoritairement issues de la proche région, meurent ainsi pendant cette période. L'ampleur du phénomène et la dureté de la répression sont considérables pour une si petite zone, avec des répercussions directes sur nombre de familles et d'individus. La source principale de cette nécrologie est la copie de la procédure contre les prévenus de brigandage comme auteurs ou comme complices, publiée en 1804 à Draguignan, dont il ne reste que quelques exemplaires, la majorité ayant été détruite par les familles compromises dans les poursuites, selon l'affaire des Brigandops. Selon un historien de la veuve, surnom de la guillotine, de Draguignan, le condamné était généralement ligoté et basculé sur le ventre au moyen d'une planche coulissante avant que le couperet tombe. Plus d'un siècle d'utilisation de la guillotine a permis aux autorités judiciaires d'offrir au badaud le spectacle d'environ 150 exécutions.
Sitting in the dark and ponder how I'm fit to make the bottom fall to the floor, and they all fall down. It goes. Out of the shadows, barrage of witch tongue, cobras spit over apocalyptic cult, killer cauldron, smoke, stop music, seriously. It goes. Can't stop the groove, look stars clear off them locks. Relentless rob movement for the knock. For me to that G-spot body rock, connect it to everything you want, ever did want. We got it, why not come get us to get in that hole and watch me drop this cold guillotine death sentence. Yeah. It goes. Guillotine. Hidden all between and beneath every fragmented figure of speech. Tongue in reverse whenever the beat causes my jaws to call. The screen flashing red, can't see ship ahead. Spinning exorcists like planets out of orbit off the edge of my axis, ripping the doors to formal and all that's ever been said.
Tie the cord, kick the chair and you're dead. It goes guilty. Trick in a bucket, body of a trick in a bag, and thrown in the fire like fuck it. Gotta burn it before it goes bad. But too many times been disgusted by the stench of rotting such a drag. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last. It goes.
Enrobage romanesque. Le banditisme de grand chemin est un sujet romanesque récurrent. Et, de par leur histoire, les quatre départements de l'Aix-Provence ont alimenté quelques œuvres fictionnelles dont il est la toile de fond. Après son personnage héroïco-comique du braconnier Morin, échappant sans cesse aux mêmes gendarmes, Jean Écart puise dans l'histoire de Gaspard Bouys, né en 1757 à Besse-sur-Issole dans le Var, pour écrire Gaspard de Besse, un bandit à la française en 1919. Exécuté à Aix pour crime de vol sur grand chemin avec arme, à l'âge de 24 ans, Gaspard Bouys est sans conteste le bandit du Var ayant le plus titillé la plume. Jouissant d'une réputation sympathique, le présentant habile à détrousser les riches sans violence, épargnant les pauvres et défiant ouvertement la justice. Il fournit matière à des poèmes, des complaintes et à plus d'une dizaine de romans depuis la première moitié du XIXe siècle. Après une adaptation cinématographique en 1935 et télévisuelle en 2006 du roman de Jean Écart, Gaspard de Besse devient en 2000 le héros d'une bande dessinée éponyme en 17 tomes. Jean Giono fut lui aussi inspiré par le brigandage. En 1970, L'Iris de Suse, le dernier roman publié de son vivant, retrace l'histoire d'un brigand devenu berger. Un recueil de nouvelles écrites entre 1955 et 1965, intitulé « Récit de la demi-brigade », est édité 2 ans après sa mort. L'une des nouvelles, « La belle hôtesse », s'inspire de Marie la belle marchande Jourdan, inculpé et exécuté à Digne le 22 septembre 1803 pour sa participation aux actes de brigandage dans le Var. L'auteur ne la met pas directement en scène, mais elle est omniprésente. Il fait en effet le choix de situer l'action de sa nouvelle quelque temps après la mort de Marie Jourdan et de l'évoquer à travers les yeux d'une patrouille de militaires en mission dans la région qui ont entendu parler des tristes conséquences des dénonciations de Jean-Pierre Turier-Pons. Entre 1962 et 1967, Jean Giono écrit Dragon, dont l'intrigue tourne autour d'un hypothétique trésor caché des brigands devant servir à financer le lancement d'une entreprise. Resté inachevé, le roman est publié tel quel en 1982. Les biographes de Jean Giono indiquent qu'il fut toute sa vie à la recherche du quatrième tome de « La copie de la procédure instruite contre les prévenus de brigandage comme auteur et comme complice ». Sans parvenir à se le procurer. La communauté protivophile est en émoi à l'idée qu'un manuscrit inédit de Jean Giono puisse encore être trouvé. Est-il sur Nanette Escartefig ? Après sa mort, Nanette Escartefig devient elle aussi l'héroïne de 2 romans. Nanette Escartefig, histoire de brigand, écrit en 1906, et L'insoumise de Lesterel en 2013. Dans les 2 cas, les auteurs n'ont pour seule source que l'interrogatoire de Nanette et celui de la balance Jean-Pierre Turier-Pons. Ils ne retiennent que quelques dires de ce dernier pour forger un personnage romanesque de Nanette, fort éloigné de ce qu'on peut en savoir réellement, autant dire rien. Peu perméable à la fiction, la protivophilie ne peut néanmoins ignorer l'existence de cet outil de distraction littéraire, bien antérieur aux mots mêlés, que sont les romans populaires. Les 2 romans centrés sur Nanette Escartefig sont ainsi l'occasion d'étudier 2 styles littéraires différents que la protivophilie qualifie, par manque de termes plus précis, de garien et de hystérostorien.
Qui blanchissait tous les jours au bord de la rivière. Avec les jeunes beaux garçons, mes beaux garçons. L'amour, c'est une folie. L'amour, c'est qu'un vrai tourment
pour être heureux.
Pour être heureux
dans cette vie,
dans cette vie, il faut s'aimer.
E
vive le pomme de terre,
caro,
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 caro, te pinare,
poro, poro, poro,
da sette di,
da sette di,
o trovali,
o trovali,
o sa che sta
porto, tomo, porto, tomo.
Marchion gaiman,
marchion gaiman,
le sacco d'o,
le sacco d'o, marchion gaiman, le sacco d'o.
Marchion gaiman,
marchion gaiman,
le sacco d'o,
le sacco d'o, marchion gaiman, le sacco d'o.
En 1906, à l'âge de 27 ans, Jean Galmo arrive en Guyane, avec en poche le titre de propriété d'une mine d'or, le placé Élysée. Bercé d'idéaux progressistes, il s'installe et fait fortune en instaurant un système économique qui garantit un prix d'achat fixe à ses intermédiaires locaux. Il se lance aussi dans la production de rhum. Se définissant comme un aventurier entrepreneur, Jean Galmo met en place ce que de nos jours les alter-économistes appellent le commerce équitable. Élu député de Guyane en 1919, il est poursuivi en justice, puis blanchi en 1923 dans une affaire d'enrichissement illégaux. Lors de son procès, il met en avant son commerce équitable et se dit victime des gros propriétaires qui n'apprécient pas ce dit commerce, jugé trop favorable aux intermédiaires et aux salariés. Jean Galmo est un de ces entrepreneurs qui pensent qu'il faut distribuer quelques jetons aux joueurs, histoire de les amuser un peu. De nouveau prétendant à la députation en 1924 et favori, il n'est pas réélu grâce aux fraudes électorales organisées par son opposant. Pour des raisons que la protivophilie rejette et que rien ne peut justifier, Jean Galmo dénonce son ami Alexandre Stavinsky, ainsi devenu ex-ami en 1926. Ce dernier écope de 18 mois de prison pour différentes accusations de fraude et d'arnaque. Le 6 août 1928, Jean Galmo est retrouvé mort à Cayenne. Les circonstances obscures de cette mort et les rumeurs d'empoisonnement qui circulent rapidement déclenchent des émeutes à Cayenne. 14 personnes sont jugées en mars 1931 à Nantes pour leur participation à ces émeutes. Mais le procès se transforme en charge contre le colonialisme et l'esclavage par les avocats de la défense et les accusés sont acquittés. Une statue lui est dédiée dans la ville de Cayenne. C'est avant de partir en Guyane que Jean Galmo publie, à Nice, son roman « Nanette Escartefigue, histoire de brigand » qu'il sous-titre « Les barbés du comté de Nice et les réquisitionnaires de l'Estérel ». Dans ce récit imaginaire, il mêle l'histoire des résistances à l'annexion par la France du comté de Nice et les déserteurs qui refusent de servir dans l'armée française avec le banditisme du Var et ses propres déserteurs. Dans cette fiction, Nanette Escartefigue est amante de Jean-Pierre Ponce, dont elle partage le lit et les actes de banditisme. Ensemble, ils tentent de fédérer les barbés niçois et les bandes de brigands. Romance, héroïsme et trahison sur fond historique, avec un brin de sordide. Nanette, enceinte, est chassée de la prison de Nice et accouche de manière misérable, alors que son nouvel amant, et le père de l'enfant, est tué après avoir sombré dans la folie. Sans y prétendre pour autant, ce roman de Jean Galmo est sans conteste un indice de sa clairvoyance quant à l'avenir du roman de gare. Celles et ceux qui défendent son côté progressiste et engagé peuvent peut-être voir dans son récit une allégorie politique pour dénoncer l'annexion de Nice par la France en 1860 et l'ouverture de la gare 4 ans plus tard. Cet engagement et cette praxis politique de proposer au plus grand nombre des lectures faciles pour influer rétrospectivement sur le cours des choses sont, selon ses détracteurs, qualifiés par ses défenseurs de gariens.
L'héroïsme. N'avoir rien à dire et ne rien dire quand même. Éloge de rien.
Autre style particulier de la littérature, l'hystérostorien est un savant mélange de théories sur l'hystérie, d'un brin d'héros et d'un aplomb d'historien. moins drôle que des dialogues de Sans Antonio, moins sexuel qu'un SAS, et un air de déjà-vu comme une couverture de l'Arlequin. L'hystérostorien est un rendu littéraire qui en dit beaucoup sur les appétits sexuels et les fantasmes des auteurs. Dans L'insoumise de l'Estérel, publié en 2013, Michel Gardère, que nous avons déjà rencontré, invente une histoire dans laquelle Nanette est une chef de bande de brigands, essentiellement constituée de jeunes hommes réfractaires à la conscription. Pour les amadouer, elle couche avec tous les nouveaux en leur faisant miroiter la prochaine. À travers un récit pseudo-historique, Michel Gardère nous livre toute une part de lui-même, de ses envies et de ses faces cachées. Mettant fin à des années d'attente fébrile pour ses fanatiques lecteurs, l'auteur nous livre enfin sa conception de la femme fatale. Si rien ne correspond à ce que nous savons de Nanette Escartefig, presque tous les poncifs connus sur une soi-disante féminité y sont présents. L'hystérostorien, pour note, ce terme ne se décline pas au féminin. L'hystérostorien, donc, est de ceux qui hésitent dans leur choix. Écrire un livre érotique ou pas? Publiquement? Assumer ou pas son sexisme ordinaire? Être écrivain n'est pas chose facile. La protivophilie n'insiste plutôt à rien.
L'érotisme. N'avoir rien à dire et ne rien dire quand même.
Dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, foufoune,
rien de plus. Comme cela est souvent le cas, les liens entre F. Marjanov et d'autres personnes tiennent à rien. Pour la protivophilie, il est évident qu'il en est de même avec Nanette Escartefig. Ces personnes sont de celles qui n'ont pas désiré que l'on s'exprime à leur place, qu'on leur fasse dire et faire des choses qu'elles n'ont pas voulu, ou tout simplement qui n'ont pas exprimé le souhait que l'on en sache plus sur elles. De la même manière que pour Nanette Escartefig, rien de ce qui peut être écrit à propos de F. Marjanov ne saurait être considéré comme véridique. Pour les hystérostoriens et les gariens inspirés, la protivophilie, en ce qui concerne F. Marjanov, renvoie à la courte biographie qui lui est consacrée. Rien de plus à dire.
Comme le dit Nanette Escartefig, en réponse aux accusations portées contre elle par la justice et par ses détracteurs littéraires, gariens et autres hystérostoriens.
Il n'y aura personne qui puisse soutenir pareille chose. Personne.
Rien. Je ne sais rien. Je me mêle de rien. Mais il y a une chose que je sais. Tous les politiques, tous les généraux, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, commandent, donnent les ordres, sont des pourris. Sans exception, tous. Arnaud Schmitt, scène de la vie d'un faune.
Tout sur rien. Le quatrième mardi du mois, à 17h. Le vendredi, à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Gonge-Vigan.